Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Julie Delabrosse et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Seconde étape de notre semaine consacrée à la recherche des biens communs. Hier, on a vu les liaisons ambiguës entre la propriété privée et ce qu'on appelle les communs, ces ressources naturelles ou numériques gouvernées par une communauté. Aujourd'hui, on part sur le terrain pour observer de plus près les multiples façons de gérer le bien commun par excellence, la nature, et plus particulièrement l'eau, indispensable à la culture et à la vie. Alors que les océans et les fleuves ne cessent de se dégrader, menaçant la survie de populations entières, à qui confier aujourd'hui la gouvernance de l'eau? Que nous apprennent les expériences locales menées en Bolivie, en Inde et ailleurs? Et comment le droit peut-il permettre de mieux protéger ces richesses communes? Voilà les questions auxquelles on va tenter de répondre dans l'heure qui vient. Il est 14h et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. La gestion commune de la nature et le partage des eaux, c'est notre sujet aujourd'hui. Et on en parle avec Stéphanie Léronas, chargée de recherche à l'Agence française de développement et contributrice de l'ouvrage « Vers une république des biens communs » publié au Lien qui libère. Et Marie Toussaint, juriste, présidente de l'association Notre Affaire à tous et déléguée Europe et Jeunesse à Europe Écologie Les Verts. À 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Stéphanie Léronas et Marie Toussaint, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va tenter de voir quels sont les meilleurs modèles de gestion de l'eau, alors que le stress hydrique et les pénuries d'eau s'aggravent dans plusieurs régions du monde. Et d'abord, il faut peut-être commencer par dire que pendant longtemps, les banques de développement et un certain nombre de gouvernements ont défendu un modèle de privatisation de l'eau. Alors, avec quelles conséquences? Exemple à Cochabamba, en Bolivie, à la fin des années 90.
Il faut remonter à septembre 99. Lorsque le gouvernement bolivien, sous la pression de la Banque mondiale, a accepté d'octroyer à un consortium qui s'appelle Aguas del Tunari et qui est détenu par la multinationale américaine Bechtel, a accepté d'octroyer un contrat de concession de 40 ans sur le service de distribution d'eau de la ville de Cochabamba. Or, quelques semaines après la prise de contrôle effective par le consortium du service de distribution d'eau, on s'est rendu compte que les prix commençaient à augmenter de façon drastique et les prix ont finalement doublé, ce qui fait que la population de Cochabamba s'est retrouvée dans l'incapacité de faire face à cette augmentation. En gros, les habitants de Cochabamba avaient le choix entre payer pour avoir de l'eau ou pour acheter à manger. Du coup, les habitants de Cochabamba ont décidé de descendre dans la rue dans le cadre d'un mouvement citoyen de désobéissance civile. Ils ont refusé de payer leurs factures. Et donc, en février 2000, c'est ce qu'on a appelé la guerre de l'eau, parce que le gouvernement bolivien, face à cette mobilisation, a décidé de réprimer dans le sang. Mais le mouvement a tenu bon, puisqu'il n'était vraiment pas question de pouvoir payer plus. Et au final, en avril 2000, le gouvernement bolivien a finalement décidé de résilier le contrat de concession qu'il avait octroyé à la multinationale Bechtel.
Voilà la capture de l'eau par les multinationales à Cochabamba en Bolivie, extrait d'une émission de France Culture en 2003, Terre à Terre. Stéphanie Léronas, l'objectif de la prise en charge par les opérateurs privés, c'était d'améliorer l'efficacité du service de distribution de l'eau. C'était en tout cas l'argument qui était avancé, sauf que c'est un modèle qui finalement a rapidement montré ses limites.
Oui, je pense que le choix de la Bolivie n'est pas du tout anodin. On est quand même dans la référence mondiale de la défense des communs. Donc on va y arriver assez vite hein, sur ces histoires de communs. Effectivement, ça a été très bien décrit dans le petit extrait que vous nous avez passé. L'arrivée d'un opérateur privé à la demande des autorités publiques sous la pression de la Banque mondiale, avec un objectif d'améliorer l'efficacité du service, étendre le service. Et avoir une gestion raisonnée des ressources en eau. Effectivement, ça a donné lieu à un mouvement populaire sans précédent, qui a été énormément documenté. Je vous encourage d'ailleurs à lire une tribune sur The Conversation qui a été écrite par Sarah Botton et Claude Le Guil sur le sujet, qui revient sur cette histoire de Cochabamba et des mouvements populaires, et qui en réexplique un peu les causes.
C'est un point de départ essentiel, il y a eu une prise de conscience à ce moment-là ?
Voilà, exactement. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Cochabamba en plus, hein, c'est-à-dire que 5 ou 6 ans après, on a La Paz et l'Alto qui revit aussi exactement le même processus, qui a posé problème, c'est évidemment l'augmentation des tarifs, mais aussi la privatisation de la ressource en eau. Donc au-delà du service, il y avait aussi la question de la privatisation des ressources en eau. Et là, le gouvernement bolivien fait effectivement machine arrière, décide de revenir à une gestion publique et surtout reconnaît également les formes de commun qui existaient autour de du service d'eau. Et il inscrit, ça c'est aussi un fait qui intéressera sûrement beaucoup Marie Toussaint pour la seconde partie de l'émission, il inscrit l'eau comme un bien commun au sein de la Constitution.
Et alors comment se mettent en place ces communs dont vous parlez ? En quoi est-ce qu'ils consistent ? Est-ce qu'ils se mettent en place d'abord contre cette privatisation à la fois de la ressource et de la distribution de l'eau ?
Alors il y a de la littérature qui défend ce point de vue. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai eu l'occasion de discuter avec deux chercheurs de qualité qui travaillent sur ces questions-là, Franck Poupeau et donc Claude Le Guil, qui ont retracé l'histoire de ces coopératives d'eau en zone urbaine. Il faut savoir qu'un tiers de la population bolivienne vit à Santa Cruz, La Paz et Cochabamba. Donc c'est une population urbaine avec une problématique urbaine, donc des extensions des villes et une grosse difficulté pour le service public à suivre les extensions urbaines. Donc en fait, ces coopératives d'eau, la position que défend Franck Poupeau et Claude Le Guil, c'est plutôt de dire qu'ils se sont pas tant construits contre l'État qu'en l'absence de l'État. Et ils ont voulu pallier la déficience d'un service public dans certaines zones, et notamment dans les zones périphériques de la ville.
Donc l'une des leçons de Cochabamba, c'est peut-être de dire que le modèle centralisé de gestion de l'eau par l'État ne fonctionne pas, ni celui d'une gestion par des entreprises privées.
Il peut être insuffisant. En fait, c'est pas qu'il fonctionne pas, c'est qu'il peut être insuffisant, notamment dans les pays en développement ou dans certains pays émergents. Et donc, on a ces coopératives qui se mettent en place. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est le gouvernement Morales a lancé des vastes programmes de construction et d'aménagement. Donc, le réseau d'eau s'étend, atteint les zones où étaient installées des coopératives d'eau, et on a une tension qui commence à apparaître au sein de ces coopératives entre ceux qui ont créé la coopérative et qui ont une espèce de relation assez affective au commun, hein, puisqu'ils étaient à l'origine de la création, et les nouveaux arrivants dus à la pression démographique, qui eux ont plutôt une vision assez pragmatique et qui aimeraient bien pouvoir se raccorder au réseau central. Donc vous voyez, on a une articulation à la fois technique et organisationnelle.
Alors cette gestion en commun des ressources naturelles part du constat que les communautés locales sont plus à même de gérer les ressources naturelles que donc le marché ou le gouvernement. Mais alors, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ? C'est-à-dire qu'on en a l'intuition, mais comment savoir si en réalité ce sont vraiment les communautés locales qui peuvent le mieux à la fois exploiter cette ressource de façon durable et la protéger ?
Là, il faut revenir aux écrits d'Elinor Ostrom, et vous, dans l'émission d'hier, vous avez très bien retracé l'histoire et la manière dont la pensée d'Elinor Ostrom est apparue. Elle a quand même fait un travail empirique énorme sur beaucoup de cas dans des pays très variés pour évaluer justement cette capacité des communautés locales à gérer de manière durable la ressource dont il dépend. Ceci étant dit, il ne faut pas avoir une vision totalement romantique des communs, et on se rend compte dans de nombreux cas qu'en fait les communs tels qu'ils sont à nouveau développés aujourd'hui, pas les communs, les très anciens communs, sont fortement articulés avec la sphère marchande et avec la sphère publique, et que l'État a un rôle en fait extrêmement fort. Les communs ne signifient pas un désengagement total de l'État.
Marie Toussaint, on pourrait avoir cette image effectivement des communs comme complètement décorrélés à la fois du marché et de l'État. C'est une vision faussée ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, ce qui est intéressant, et il y a un débat dans la sphère à la fois intellectuelle et associative sur la manière dont on appelle, dont on nomme ces communs. Alors, on peut parler de biens communs. C'est vrai que pour nous, plutôt les tenants des droits de la nature, il n'y a pas de bien commun quand on parle de la nature. On n'est pas dans le cas d'une chose qui est insensible, qui n'a pas de vie et qu'on peut se passer de main en main. On est dans le cas de quelque chose qui vit, des écosystèmes qui sont vivants. Et puis, la seconde chose, c'est qu'il y a une articulation, effectivement, entre un commun que moi j'appelle territorialisé, c'est-à-dire par exemple une source avec une rivière qui permet de nourrir une population, et ces communs naturels environnementaux mondiaux qu'il s'agit de préserver. Et on sait que dans le cas de l'eau douce, les pressions sur le changement climatique, sur la biodiversité, etc., amènent une disparition de cette ressource. Donc effectivement, il faut qu'on arrive, et on y reviendra plus tard, mais à instaurer sur... par exemple les eaux, mais c'est aussi le cas pour les forêts, pour les glaciers, pour les montagnes, une gestion qui soit à la fois une gestion locale par les communautés, un État qui est garant de du bon respect de ces ressources, et pourquoi pas des droits de la nature, et de parler au nom de ces ressources lorsqu'elles sont endommagées. Et puis un système planétaire qui nous permette de vérifier qu'au niveau mondial, qu'au niveau global, on a bien une préservation de ces ressources.
Alors on comprend bien les différentes échelles, mais un dernier mot peut-être sur Cochabamba. Est-ce que vous diriez que ces initiatives, ces mouvements citoyens qui sont nés en Bolivie ont ensuite essaimé, ont mené dans différentes régions du monde à des parfois peut-être des remunicipalisations de services de distribution de l'eau? Quel héritage de Cochabamba?
Oui,
Stéphanie Léonaz.
Effectivement, hein, on constate dans pas mal de pays, y compris en France, hein, un certain mouvement de remunicipalisation des services d'eau. En tout cas, il y a depuis 1992, donc à la rigueur avant Cochabamba et depuis la conférence de Dublin, qui a mis en évidence le fait que l'eau était une ressource rare, était une ressource qui devait être préservée, et qui a mis en évidence aussi le rôle crucial des usagers, des populations locales dans la gestion de cette eau. C'est quand même un sujet qui, me semble-t-il, est déjà bien répandu dans le monde aujourd'hui.
C'est l'ONU qui crée une obligation pour les États d'assurer le droit à l'eau et à l'assainissement de leur population, donc un droit reconnu comme un droit fondamental à partir de 2010, c'est ça?
Exactement, à partir de 2010, on a le droit à l'eau. Alors toute la question, et là ça, je pense aussi qu'avec Marie, on va beaucoup en parler dans la deuxième partie, c'est la question de l'articulation entre un droit déclaré et son application réellement sur le terrain. Et c'est là où, moi, de mon point de vue, il y a une complémentarité très forte avec l'approche par les communs.
Alors on va en parler effectivement dans une seconde partie, mais on va voir d'abord un exemple en Inde, cette fois dans l'état du Rajasthan, à la frontière avec le Pakistan, un territoire rural désertique. Le district d'Alwar s'est transformé en oasis agricole grâce à un réseau de bassins et de canaux qui recueillent les pluies. Rajendra Singh est à l'origine de ce projet.
Quand j'ai commencé à travailler ici, il n'y avait rien. Pas de terrain. Pas de végétation et pas d'arbres, rien. C'était sec comme ce sol sous nos pieds. Après 6 mois à travailler dans la région, tout près d'ici, dans le village voisin, j'ai rencontré un homme, Mangu Kaka. Il était très fâché contre moi. Et il m'a dit, vous les gens éduqués, vous ne faites que parler et parler et parler. Vous ne faites rien.
Il était médecin, mais ici, si cela continuait, il n'y aurait plus eu personne à soigner. L'essentiel, c'était de faire revenir l'eau.
Après cela, il m'a montré ce que je pouvais faire avec la terre afin de créer des structures pour retenir l'eau.
Rajendra Singh, qui a remis à l'ordre du jour une technique ancestrale de réservoir d'eau. C'est un extrait du documentaire « Inde, les gardiens de l'eau » de Joël Franca, réalisé en 2007. Et alors, en 10 ans, 3500 structures diverses, des petits barrages, des digues de terre, des réservoirs, ont été construites. Et 5 cours d'eau qui étaient secs coulent à nouveau toute l'année. Donc cette nappe phréatique s'est rechargée. L'exemple d'Alwar, donc du nom de ce district du Rajasthan, a remis à l'honneur des techniques qui avaient disparu. Qu'est-ce qu'on peut quelle leçon peut-on retirer plus exactement de cette expérience, Stéphanie Léronas?
Il y a déjà les au-delà de la technique, hein, on va y revenir, il y a l'idée de l'organisation, c'est-à-dire qui est responsable de la gestion de l'eau. Là, on est dans un cas un petit peu typique où, c'est pas qu'en Inde, hein, mais dans les années 70-80, on a quand même eu des politiques très aménagistes en ce qui concerne l'irrigation et la gestion de l'eau, qui étaient donc des approches très centralisées avec une gestion publique, l'idée étant d'apporter un maximum d'eau pour avoir ensuite une agriculture efficace, une productivité forte de la terre, etc. Et cette révolution verte, hein, telle qu'on l'appelle, a fait un certain nombre de ravages dans pas mal de pays, dont en Inde. Il y a d'ailleurs d'autres exemples que sur l'eau qu'on pourrait citer en Inde, avec l'histoire des semences aussi, où des villages ont été tout à fait capables de reconstituer des banques de semences traditionnelles et donc de ne pas rester dans la culture de la révolution verte qui avait été promue jusque-là, et ce qui a permis d'assurer leur sécurité alimentaire. Bref, en tout cas, sur ce cas-là de l'eau, au Rajasthan, on voit que là, les communautés locales reviennent à leur mode de faire traditionnel qui avait été rendu totalement invisible pendant toutes les politiques d'aménagement. Elles se réorganisent et elles se reconfigurent. Ce qui est important, à mon avis, de dire, parce que là, on l'entend pas dans l'extrait que vous avez passé, c'est qu'on a donc un nouveau commun qui se forme, qui est basé sur des techniques anciennes, qui est basé sur une communauté qui préexistait, qui était bien là, qui était basé sur un savoir-faire ancien, mais qui par contre va être obligé de se reconfigurer. On n'aura pas le même commun que celui qu'on avait avant les politiques d'aménagement. Il sera forcément fortement articulé avec l'État.
Et pour parvenir à ces résultats, c'est ça, les paysans ont dû braver l'administration de l'État qui interdit de capter de l'eau sans permission officielle. Donc on voit ici qu'en fait l'enjeu effectivement n'est pas que technique, mais également politique. C'était en quelque sorte un test de démocratie.
Exactement. Et ça réinterroge l'État. Et on le voit bien, puisque aujourd'hui l'État indien, si j'ai bien lu ensuite les articles à ce sujet, s'interroge sur la possibilité de revenir à ces modes de faire traditionnels.
Mais alors justement, est-ce que ces pratiques ne marchent pas précisément parce qu'elles existent au niveau local ? Est-ce qu'il serait possible de généraliser ce type de pratiques ? Je rappelle que la situation en Inde est alarmante. La moitié du pays est classée en stress hydrique élevé. Et il y a plusieurs études qui prévoient carrément l'épuisement total des réserves du sous-sol d'ici 2025 ou 2030. Donc il y a vraiment urgence.
Il y a urgence, et c'est pas malheureusement pas le seul pays où il y a cette urgence au niveau du stress hydrique. Encore une fois, moi je crois en la complémentarité des approches. Lorsqu'un pays est en stress hydrique de cette manière-là, il a en général deux axes d'intervention. La première, ça va être de mobiliser de nouvelles ressources. Donc ils vont faire des énormes infrastructures extrêmement coûteuses de mobilisation de ressources, allant jusqu'au dessalement, de la réutilisation des eaux usées traitées, etc. Et l'autre axe sur lequel ils vont beaucoup travailler, c'est tout ce qui concerne un usage raisonné de la ressource, donc ce qu'on appelle la gestion de la demande en eau. Et cette gestion de la demande en eau, elle ne peut se faire qu'avec les usagers et qu'à un niveau local. Donc on est de toute façon dans une complémentarité des approches.
Alors les exemples de gestion purement locale comportent toutefois des limites. Comme on commençait à le dire, l'efficacité d'un tel mécanisme dépend de multiples facteurs, la correcte information de tous les acteurs, leur volonté réelle de collaborer et leur capacité à se soumettre à des règles. Donc réunir tous ces critères, c'est loin d'être simple, Stéphanie Léronas. On voit que notamment sur la question de la gestion des conflits, il y a des problèmes qui peuvent apparaître.
Oui, tout à fait. Et ça, vous l'avez bien rappelé hier dans l'émission, c'est-à-dire que les travaux d'Ostrom sont de grande qualité, mais ils avaient occulté quand même un pan assez important de cette question des communs, qui était la gestion des conflits au sens de rapports de force. Quels sont les rapports de force qui peuvent exister au sein des communs, entre ceux qui sont là historiquement, ceux qui arrivent, entre les usagers et l'État, etc. Donc, c'est quand même de la haute couture, les communs, et ce qui est très intéressant de regarder, c'est leur trajectoire, parce qu'on se rend compte que dans leur histoire, ils passent leur temps à se réinventer et à se reconstituer et à réajuster leur relation à l'État et leur relation au monde marchand.
Marie Toussaint ?
Il y a une seconde difficulté qui avait effectivement pas été tellement abordée par Elinor Ronstrom et ses collègues. L'exemple de l'eau en Inde, c'est aussi l'état de l'Uttarakhand, qui a décidé en 2017 d'attribuer des droits au Gange, des glaciers, à l'embouchure. On sait que le Gange, et donc là, au-delà du stress hydrique, le Gange est 3000 fois plus pollué que les recommandations de l'OMS. Et donc, il y a une première décision de justice qui dit, on va attribuer des droits à la nature, et les communautés qui vivent le long du Gange vont être responsables, au même titre que l'État, de l'ensemble des écosystèmes peuplant le Gange, et vont pouvoir parler en son nom, ce qu'on appelle le locus standi avec parens patriae dans le jargon juridique. Mais en fait, il y a eu un premier refus de la part des communautés qui disaient, mais en fait, est-ce qu'on va être responsable, nous, des pollutions qui vont arriver dans cette rivière? C'est-à-dire que le fait qu'on ait des droits maintenant avec cette rivière, auprès de cette rivière, ce fleuve, est-ce que ça va impulser le fait que si quelqu'un d'autre vient polluer cette rivière, alors nous en serons tenus responsables et nous serons responsables de la réparer. Et donc il y a aussi cette tension-là par rapport à des événements extérieurs pouvant venir bousculer les communs dont on parle.
Stéphanie Léronas.
Et il y a une difficulté supplémentaire qui est tout à fait en ligne avec ce que vient de dire Marie. C'est le fait que les communs n'agissent que pour leur intérêt propre. Et donc, or l'eau est un flux. Donc effectivement, lorsque eux ont une certaine gestion de l'eau, les populations en aval peuvent pâtir de la gestion qu'ils vont faire de cette eau en fonction de leur intérêt propre. Et d'où là, encore une fois, le rôle de l'État qui peut être crucial sur la préservation d'un certain intérêt général. On a même vu des communs qui n'étaient pas vertueux. Alors après, certaines personnes proposent de ne pas les appeler des communs. Mais toujours est-il qu'on a bien une ressource, qu'on a bien une communauté, qu'on a bien des règles partagées et une structure de gouvernance. Et c'est le cas, par exemple, au Maroc, où on a pu constater que des communs s'étaient organisés autour de la gestion des eaux souterraines, non pas en vue de préserver la ressource, mais en vue de faire une transition économique vers d'autres activités économiques, telles que le tourisme, et donc ont programmé la déclinaison de leurs propres ressources.
Alors, il faut donc imaginer des modèles de gestion mixte, locaux et participatifs, mais appuyés par l'État ou par des opérateurs privés, afin de mieux répondre peut-être aux réalité culturelle et politique de chaque communauté.
Qu'est-ce que c'est que ces communs ? Ben, c'est au fond des choses qui s'inventent déjà sur le terrain aujourd'hui, des initiatives qui sont prises, pour prendre un exemple, au Cambodge par des communautés locales pour sauver la riziculture de la montée des eaux et des océans qui salinisent la terre et qui rend la terre improductive. C'est des initiatives, par exemple, de coopératives à Kinshasa qui organisent la gestion de l'eau dans les bidonvilles de Kinshasa, ou bien de coopératives à La Paz qui organisent également l'accès à l'eau. Voilà. Donc tout ça, c'est des institutions hybrides qui ne sont ni purement publiques ni purement privées, qui se forment de manière relativement spontanée, quelquefois avec l'aide de l'État, quelquefois avec l'aide de l'Agence française de développement, et qui sont certainement les formes futures, au fond, de collaboration sur le terrain qui vont être, au fond, les lieux de fermentation pour le développement d'aujourd'hui et de demain.
Voilà, on entendait le chercheur Gaël Giraud de l'Agence française de développement. Alors, ces modèles de gestion mixte, est-ce que c'est un modèle d'avenir? Et est-ce que cette nécessaire adaptation à chaque réalité locale est précisément ce qui rend la généralisation de ce type de système si compliqué, Stéphanie Léronas?
Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision dogmatique des communs. Si on veut réellement arriver à une république des biens communs telle qu'elle est proposée dans l'ouvrage coordonné par Nicole Alix, Jean-Louis Bancel, Benjamin Coria et Frédéric Sultan, il faut les réfléchir en hybridation avec des modes de gouvernance publique et des modes de gouvernance privée. Et alors là, les exemples se multiplient. Ce sont des exemples qui sont extrêmement contextualisés et on voit donc le rôle de l'État qui est re-questionné.
On peut rentrer peut-être dans le détail d'un exemple de gestion mixte. Alors il y a les eaux souterraines de l'Azraq, en Jordanie. Je rappelle que la Jordanie, c'est l'un des pays les plus pauvres en eau de la planète. Ses besoins ne cessent d'augmenter à cause de l'intensification de l'agriculture. Il y a la croissance démographique, évidemment, l'afflux de réfugiés syriens. Qu'est-ce que nous apprend cet exemple, Stéphanie Léronas?
Effectivement, la Jordanie, c'est un des pays les plus pauvres en eau. Ils ont un disponible par habitant et par an de 100 mètres cubes, donc qui est très, très, très inférieur au seuil de stress hydrique. Et ils ont des besoins qui explosent, donc à la fois parce qu'ils ont une intensification agricole, des croissances économiques et, comme vous le disiez, les afflux de réfugiés syriens. citoyens. Et la stratégie nationale de l'eau est basée sur les deux piliers dont je vous parlais au début, à savoir augmenter les capacités de production et gérer la demande en eau. Et ils ont un souci sur les nappes souterraines renouvelables qui se trouvent dans le nord-est du pays, qui est un peu le berceau de leur agriculture avec la vallée du Jourdain, où on a constaté une surexploitation de la ressource en eau dès les années 80. Et cette surexploitation, elle est le résultat en fait d'afflux d'agriculteurs qui font des forages individuels dans les nappes souterraines, qui du coup subissent des prélèvements qui sont supérieurs à leur niveau de recharge, et donc ils peuvent plus être rechargés par les eaux de pluie. Donc l'État a réagi. L'État a forcément réagi face à cette situation et ils ont essayé de mettre en place un certain nombre d'outils, des outils réglementaires en mettant des quotas, des taxes, en gérant un peu les quantités, et des outils un peu plus économiques avec des prix, des taxes, etc. Ils ont fait des efforts considérables et malheureusement ça n'a pas marché et la surexploitation a continué. Et c'est dans les années 2010 qu'est arrivée l'idée de mettre en place, en complément des actions de l'État, une gestion décentralisée avec ce qu'on appelle le Highland Water Forum, qui réunit les usagers, les représentants du gouvernement, des experts environnementaux, etc.
Et cela marche beaucoup mieux.
Ça va mieux, c'est pas parfait, parce que justement la difficulté c'est de pouvoir gérer des crises externes. Un commun, on voit quand même sa capacité de résilience, à sa capacité de gérer les chocs externes. Et les chocs externes là, ils sont quand même nombreux dans cette zone avec l'afflux des réfugiés syriens et la nécessité d'alimenter en eau potable tous ces réfugiés. Et donc on a des prélèvements en eau potable qui explosent dans ces nappes, alors que le commun il n'est constitué que des agriculteurs. Donc du coup on n'a pas le représentant principal.
Et vous écrivez aussi que cette gestion décentralisée se heurte à plusieurs difficultés, notamment la réticence des pouvoirs publics à s'écarter de la stratégie nationale de l'eau. Il faut que le pouvoir central soit capable de faire confiance aux usagers. C'est ça l'enjeu.
Exactement là. Quand je disais que l'État est re-questionné, il est vraiment re-questionné en profondeur, parce que la première chose qu'on lui demande, c'est des engagements forts, mais le premier engagement qu'on lui demande, c'est de se désengager. Et de se désengager dans la durée. C'est-à-dire, c'est pas au gré des visions politiques que ça doit trop changer. Et donc, il doit se désengager et ensuite, il doit se réengager de manière nouvelle, de façon beaucoup plus partenariale, en faisant confiance, en donnant les moyens pour le commun d'exister, le cadre légal pour qu'ils aient une existence légale, éventuellement des moyens financiers et éventuellement en participant à la construction des règles.
Donc tout ce qui se joue ici, Marie Toussaint, c'est vraiment ce lien entre l'État et les communautés locales et cette question effectivement de la place de l'État dans cet engagement et recul. C'est un mouvement permanent d'aller et retour, Marie Toussaint.
En tout cas, il y a une volonté. Alors, parce que il y a une troisième dimension qu'il faut qu'on intègre. Je crois que c'est ce que vient de dire Stéphanie Léronas, hein, finalement, quand elle dit le commun, ce sont les agriculteurs, et donc on n'a pas le sujet principal. Le sujet principal, ça peut être la nature et la ressource elle-même. Et donc ça met en jeu beaucoup de choses. C'est une question démocratique profonde. Je pense par exemple à la proposition de Bruno Latour de mettre en place un parlement des choses. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que dans les décisions, on ait des représentants de la nature qui puissent participer à la discussion, au débat et à la prise de décision. Et puis c'est aussi une question d'accès à la justice et du fait que, effectivement, à un moment, quelqu'un, ça peut être l'État, représente l'élément naturel qui vient s'inscrire dans le débat et dans le conflit, finalement, sur les ressources. Et évidemment, on est toujours dans une situation de conflit qui est réglée. Et donc, c'est aussi ça qui est le propre des communs, c'est comment les conflits permettent, physiques, hein, mais on est plutôt non-violent, soit devant la justice, permettent de faire émerger cette nouvelle gestion.
Don't make it too soon. can see the ocean. It's warm and balmy and the flutes play. See the mermaids putting on a show. And I still feel her scent on me.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
On écoutait Océan de Zachary et on est toujours avec Stéphanie Léronas, chargée de recherche à l'AFD, et Marie Toussaint, juriste et présidente de l'association écologiste Notre Affaire à tous. Alors on a évoqué ces modèles de gestion commune qui permettent dans une certaine mesure de protéger les ressources naturelles, mais ça ne suffit évidemment pas et c'est là que la nécessité d'un encadrement juridique intervient. Or le droit, comme l'explique la juriste Valérie Cabanès, a placé l'homme au centre, au détriment de la nature.
En fait, si vous voulez, toute la problématique du droit international à l'heure actuelle, c'est que et du droit en général, et c'est pas en soi un mal, simplement le droit s'est construit autour d'une valeur qui est très importante, qui est la valeur de la dignité humaine. C'est-à-dire que le droit s'est construit sur un principe anthropocentré, là aussi donc à l'image de notre philosophie, de notre spiritualité, en excluant finalement l'humain de son environnement, de la nature. Ensuite, il s'est aussi construit selon d'autres intérêts, qui sont d'une part, comment maintenir la paix entre les États, et puis comment réguler le commerce international, de façon à ce que chaque État ait un petit peu sa chance sur l'échiquier mondial. La problématique, c'est que à force effectivement d'avoir construit ce droit selon une dynamique économique, elle a fini par oublier, d'une part, de protéger véritablement les peuples et les nations. Quand on parle de nation, je ne parle pas d'État, je parle de culture. Et puis, elle a effectivement pas pris en considération les impacts sur la nature. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de responsable. Il n'y a pas de responsable. Le problème, effectivement, c'est que cette responsabilité se dilue, qu'elle repose sur nous tous et que les conséquences finiront par effectivement atteindre surtout les générations futures. Donc, on doit se poser la question aujourd'hui d'une responsabilité et comment l'inscrire dans le droit au regard justement d'une nouvelle valeur qui serait l'écosystème Terre dont l'humain dépend, mais où on ne placerait pas seulement l'humain au centre de l'échiquier juridique.
Ne pas placer seulement l'humain au centre de l'échiquier juridique, nous dit Valérie Cabanès. Vous êtes d'accord, Marie Toussaint, il faut fonder un nouveau droit sur l'écosystème Terre.
Oui, Ce qu'on remarque, ce qu'on observe quand on regarde la nature, c'est qu'effectivement, depuis, et on peut calculer en plus, hein, on sait que c'est à peu près depuis la révolution industrielle, on a complètement détruit la planète sur laquelle nous habitons. On voit qu'on a dépassé toutes les limites en matière de changement climatique, qu'on est aussi dans la sixième extinction des espèces en matière de biodiversité, la cinquième c'était les dinosaures, et on voit effectivement que il y a une équipe de scientifiques de l'université de Stockholm, le Rockström Center, qui a construit des modalités de calcul sur les limites planétaires, qui étaient au nombre de 9, qui sont désormais au nombre de 10, et on voit que de plus en plus nombreuses d'entre elles sont dépassées. Pourquoi c'est important, et là où l'approche anthropocentrée et l'approche écocentrée, finalement se rejoignent, c'est que les premières victimes de la dégradation de notre environnement, ce sont bien les êtres humains. On voit bien qu'il y a des centaines de milliers, rien qu'en Europe, de morts du fait de la pollution. On a aussi donc une disparition des espèces, hein, le vivant est lui aussi victime, mais on voit aussi que la dégradation des communs accroît les inégalités entre nous, les inégalités sociales, entre les hommes et les femmes, entre les personnes âgées et les plus jeunes, entre les pauvres et les riches. Et donc, on a un sujet à prendre en compte et il faut absolument qu'on passe de ce que Rousseau appelait le contrat social au contrat naturel de Michel Serres.
Alors, peu à peu émerge l'idée de faire de la nature un sujet de droit. Et au mois de mars 2017, en Nouvelle-Zélande, vous l'évoquiez tout à l'heure, deux fleuves se sont vus attribuer une personnalité juridique. En Inde, c'est le Gange et l'un de ses affluents, la rivière Yamuna, tous deux sacrés qui sont devenus des sujets de droit. Qu'est-ce que ça signifie concrètement que la nature devienne un sujet de droit et quels effets, surtout, ça pourrait avoir, Marie Toussaint ?
On a de plus en plus d'exemples à travers le monde d'éléments naturels qui se voient attribuer des droits. On parle souvent effectivement des pays du Sud, des pays en développement. Alors je le dis en faisant des guillemets avec les mains, évidemment à la radio on n'entend pas, mais en tout cas de ces pays-là où on voit émerger le fait de donner des droits à la nature, soit par des lois. En Bolivie, on a eu des premières lois en 2007, dans la constitution équatorienne en 2008, ou encore au Mexique, ou à travers des jurisprudences. Et je pense par exemple, de manière un peu moins folklorique, aux États-Unis, où on a plusieurs comtés, une dizaine de comtés, qui ont effectivement donné, reconnu des droits à la nature et une jurisprudence des droits à la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord que n'importe lequel d'entre nous, des citoyens, peut ester en justice au nom d'une espèce. Et en Inde, on a vu en juillet 2018, dans l'état d'Uttarakhand, une fois de plus, que des droits avaient été attribués aux animaux. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut saisir la justice pour dire que les droits d'un animal en particulier ou d'une espèce en règle générale sont bafoués et qu'il convient de mettre en place les règles pour la préserver. Voilà, donc ça veut dire aussi, concrètement, de pouvoir, par exemple, encore une fois aux États-Unis, se battre pour préserver une rivière et ses écosystèmes, de l'industrie extractive et des gaz de schiste. Ou encore pour préserver une forêt du déversement de pesticides. Et donc on a des manières nouvelles de protéger ces espaces naturels, ces communs naturels. Et puis j'aimerais reprendre l'une des phrases d'un des chercheurs qui intervenait vendredi dernier dans la conférence des journalistes et écrivains pour la nature et l'environnement, qui disait « Mais finalement, attribuer des droits à la nature, n'est-ce pas nous attribuer à nous, des êtres humains, des devoirs ?» Et donc ça signifie aussi ça, c'est comment est-ce qu'on régule l'activité humaine de sorte à ce que, dans nos actions, nous protégions de plus en plus la nature plutôt que de la détruire.
Alors, il y a d'autres concepts juridiques qui ont également émergé, notamment la notion de préjudice écologique qui est introduite en France pour la première fois dans la loi sur la biodiversité de 2016, mais reconnue, elle a été reconnue aux États-Unis dès le début des années 70. En quoi est-ce que ce préjudice écologique consiste ? Et alors, toute la question, c'est comment on évalue la responsabilité dans le cadre d'un préjudice écologique ? Marie Toussaint.
Vous avez parfaitement raison, le préjudice écologique est un début de droit de la nature en France. Il y a là aussi un problème démocratique, et j'y reviens constamment, mais je pense que la question des communs est profondément liée à cette question de démocratie et de pouvoir des citoyens et de la nature. Dans le cas du préjudice écologique, seules des collectivités ou des associations agréées peuvent saisir la justice au nom d'un préjudice. Et puis par ailleurs, ce qu'on observe, c'est que depuis l'adoption de la loi, nous avons très peu d'exemples, voire aucun, de moments où on a défendu la nature de manière autonome, c'est-à-dire sans qu'un autre délit ou une autre infraction ne soit commise. Donc ça, c'est la première question. C'est comment est-ce que, véritablement, on peut saisir la justice pour protéger ses communs. Ça me fait penser à l'affaire du Probo Koala. Vous savez, ce gros paquebot qui avait déversé des millions de tonnes de liquide toxique sur la Côte d'Ivoire. Eh ben, il n'y a jamais eu de punition, ni pour préjudice, ni pour crime contre l'environnement, qui n'existe pas aujourd'hui en France. Hein. On n'a pas de crime autonome contre l'environnement. Il n'y avait pas eu de condamnation pour préjudice ou crime contre l'environnement, mais une condamnation pour défaut de transparence sur la nature des déchets transportés. C'est un vrai sujet ici et on a besoin d'accroître l'étendue du préjudice écologique, mais aussi de reconnaître ces crimes autonomes.
Et puis la question, c'est comment on évalue le préjudice subi, notamment en cas de dommages irréversibles. Comment on arrive à savoir quel est le prix de la nature pour elle-même? Ça pose beaucoup de questions.
Le club des juristes, avec Laurent Néré, avait à l'époque proposé une nomenclature des dommages qui pouvaient être causés à la nature. Et puis, ils avaient proposé, et c'est ce qui a été retenu par la loi, le fait que les sommes réunies puissent être remises directement dans la réparation de la nature. Maintenant, il y a quand même un point que j'aimerais souligner. On n'est pas dans une question de financiarisation des communs naturels. Et il faut au contraire s'en défaire complètement. Je vous prends un exemple sur la question des océans. En 60 ans, on a vu 40% des océans être appropriés par des États, très largement, et on a encore 10% de la surface qui est en cours de demande d'appropriation territoriale. La privatisation, l'achat, et on l'a vu dans votre émission d'hier, qu'elle soit privée mais aussi publique, entraîne une dégradation de la nature. Et donc, il faut bien commencer à penser la non-appropriation, ce qu'on appelle le res nullius, des éléments naturels.
Il faut repenser la non-appropriation, Stéphanie Léronas, et aussi sur cette question de la responsabilité qui est extrêmement compliquée à évaluer. Je pense en particulier au cas de disparition d'espèces animales. Comment savoir à qui imputer cette responsabilité?
Oui, là, je voudrais revenir sur ce que disait Marie là, sur l'idée de la justice environnementale. Ce qui est très difficile avec les communs, enfin en tout cas pour un acteur public de comprendre, c'est que ce sont des systèmes qui sont basés sur des systèmes de valeurs multicritères, donc qui vont intégrer à la fois des critères d'éthique, des critères de confiance, des critères de bien-être, des critères environnementaux, etc. Donc ils paraissent toujours relativement imparfaits.
Et cette question des peut-être de la responsabilité et plus exactement de savoir comment imputer cette responsabilité aux multinationales.
Oui,
là-dessus Marie Toussaint.
Oui. Oui. Alors, donc, il y a plusieurs éléments. Il y a ces crimes contre l'environnement qui, finalement, qu'on remarque à des endroits localisés. Et puis, il y a les crimes contre la sûreté de la planète, les plus graves crimes contre l'environnement qui mettent en danger notre capacité de survivre sur cette planète. C'est ce qu'on appelle les écocides. Éco, c'est maison, et cide, c'est tuer. Donc, c'est le fait de tuer notre propre maison. Et il faudrait, effectivement, qu'on arrive à pénaliser ces écocides et en établissant une responsabilité civile, pénale à travers les crimes contre l'environnement et pénale internationale parmi les crimes les plus graves avec ces écocides, on arrive à pénaliser les multinationales, à les mettre devant les tribunaux, à pouvoir peut-être enfermer les plus grands responsables et les entreprises, mais aussi évidemment les États. Et donc ça me fait passer à un second point qui est, aujourd'hui, on a effectivement une saisine croissante des États et une demande en parallèle croissante aux États de réguler le secteur privé. Et si je peux faire le parallèle avec les droits humains, depuis les pactes internationaux des droits humains de 66, donc ça remonte un petit peu, il y a une doctrine qui a émergé et qui demande aux États de tout faire sur leur propre territoire, au maximum de leur capacité, pour faire respecter les droits humains. Et ça passe par des instruments de contraintes, donc d'ordre légal, mais aussi des instruments fiscaux. Et aujourd'hui, on voit que Total, peut-être qu'on a arrêté la fin d'exploitation pétrolière sur notre territoire, mais Total peut encore ouvrir des puits de pétrole au large de la Guyane, Total peut encore aller chercher des concessions pétrolières au large de la Méditerranée, là où on sait qu'on doit laisser 2/3 des énergies fossiles déjà découvertes en dessous du sol. Donc là, on a un besoin, effectivement, que les États, ou n'importe quel niveau de gouvernance, finalement, ça peut être l'Union européenne, ça peut être le niveau international, régule l'activité privée et les empêche de développer les activités qui sont nocives pour notre planète et pour l'être humain.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de ces saisines de l'État de plus en plus fréquentes. Alors il y a 11 familles qui ont assigné en justice l'Union européenne pour inaction climatique. Une plainte qui a été jugée recevable le mois dernier par la Cour de justice de l'UE. Et avant eux, un collectif néerlandais, alors Urgenda, je ne sais pas comment on dit, était allé encore plus loin puisqu'il a gagné contre le gouvernement des Pays-Bas. Et le gouvernement néerlandais avait été condamné par la justice à revoir ses engagements sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit qu'aujourd'hui, sur le terrain juridique, ce qui se joue, c'est de plus en plus les citoyens face aux États. Mais alors, la question, c'est est-ce que c'est véritablement suivi des faits, Marie Toussaint ?
On a vu effectivement se développer ce type de saisine de la justice, d'abord au Pakistan, en mars 2015, où un fils d'agriculteur avait fait condamner le Pakistan. Un conseil climatique avait été nommé par le juge pour mettre en place la politique climatique du Pakistan et la réviser. On attend des retours, mais n'empêche qu'on est là dans quelque chose qui est assez révolutionnaire. Aux Pays-Bas, quand Urgenda gagne son procès en juin 2015, le gouvernement fait appel, on attend la réponse de l'appel pour octobre, mais le Parlement et le gouvernement, enfin les Pays-Bas, changent leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les augmentent de la même manière que leur avait demandé le juge. Donc là, encore une fois, on attend de juger sur les actions et la réalisation de ces objectifs, mais il y a eu un véritable changement de loi. Et concernant cette plainte des 10 familles européennes contre l'Union européenne pour inaction climatique, alors elle n'a pas été jugée recevable, elle a été acceptée, ce qui veut dire que pour la première fois, et c'est quand même notable, la Cour de justice a enregistré cette plainte-là, qui était par sa nature très longue, avec beaucoup d'analyses scientifiques, etc. Donc c'était déjà une victoire qu'elle soit reçue. Et on est dans le cas de familles qui ne demandent non pas une indemnisation sur les préjudices qu'ils ont subis dans leur activité professionnelle, comme Maurice Féchet, qui est un agriculteur de la Drôme et qui a perdu 44% de ses revenus sur les 6 dernières années. Mais bien un changement de la loi. Et ce qu'on espère, c'est d'une part que ça mette la pression sur les dirigeants européens pour qu'ils changent leurs objectifs d'ici le Conseil européen et la conférence pour le climat de décembre prochain, mais aussi qu'ils agissent concrètement. Et on voit qu'aujourd'hui, l'Union européenne augmente ses émissions depuis l'accord de Paris, tout comme la France, et que l'Allemagne et la France réduisent en jeu de miroir leurs objectifs, de sorte à pouvoir tenir des objectifs, mais qui auront été rabaissés.
Donc on voit qu'il y a beaucoup de tentatives, encore peut-être insuffisamment suivies des faits, mais alors est-ce que cela veut dire qu'on attaque désormais plus l'État que les multinationales, ou est-ce que les deux actions doivent être menées conjointement ? Est-ce qu'on assiste à un changement de stratégie de la part d'un certain nombre d'associations écologistes, Marie Toussaint ?
Il y a une stratégie complémentaire. C'est celle que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre enjeu, c'est à la fois de réguler l'activité des multinationales et de pouvoir leur demander de rendre des comptes et de réparer les dommages qu'ils ont créés. Et dans le même temps, on demande aux États de mieux préserver les droits de leurs concitoyens et des concitoyens du monde entier. Ça va forcément de pair. Et ce qu'on voit, peut-être pour faire le lien entre cette question des communs naturels environnementaux, des droits de la nature et de ces saisines qui se multiplient en justice climatique, c'est que ça va ensemble. Le changement climatique est une limite planétaire et on a vu cette année en Colombie une décision qui non seulement demande au gouvernement équatorien mais aussi aux régions colombiennes, mais aussi aux régions colombiennes de réaliser des plans ambitieux de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de protection de la forêt, mais aussi l'attribution de droits à l'Amazonie.
Alors faut-il créer des tribunaux ad hoc qui ne jugeraient que les crimes et délits environnementaux, comme cela existe déjà en Inde et au Chili, ou faut-il carrément créer un tribunal pénal international pour juger les écocides, donc les crimes contre l'environnement ? C'est ce que proposait Corinne Lepage dans son discours d'ouverture du tribunal Monsanto, tribunal citoyen, qui s'est tenu à La Haye en 2016.
La démarche que nous avons initiée et la décision, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du Tribunal, que vous rendrez, quelle qu'elle soit, n'ont rien de fictif, car le droit est réel, mais l'un et l'autre sont essentiels. Ils doivent permettre à la société civile, dont le monde entier, aux hommes et aux femmes de toute cette planète, de pouvoir initier dans leurs pays respectifs les actions nécessaires en se fondant sur les mêmes bases juridiques et les mêmes bases scientifiques et factuelles qui seront mises en évidence ici au cours de ces deux jours. Ils devront également permettre aux États de prendre conscience de la nécessité de faire évoluer le droit international en reconnaissant l'écocide et en reconnaissant également la nécessité d'un tribunal pénal international de l'environnement et de la santé pouvant permettre de juger de crimes environnementaux. Ceci va évidemment dans le sens de l'histoire et dans le sens des cris.
Voilà le discours de Corinne Lepage à l'ouverture du procès Monsanto qui visait à juger la responsabilité de la multinationale dans un certain nombre de crimes environnementaux. Marie Toussaint, c'est sur ce modèle que pourrait être créé un tribunal pénal international de l'environnement. L'idée était de montrer un petit peu à quoi cela pourrait ressembler en quelque sorte.
Ce que nous demandons avec le mouvement End Ecocide on Earth, c'est qu'un cinquième crime soit ajouté au statut de la Cour pénale internationale. Ce qui permettrait derrière de changer l'ensemble des lois des États qui sont signataires de ce traité. Mais finalement, peu importe, l'important c'est que ces crimes puissent être punis. Le mouvement en ce moment citoyen de saisine des États permet aussi de se dire, puisque ça ne vient pas d'en haut, pourquoi pas le faire émerger par en bas, et parce que ce serait reconnu dans de nombreux États faire émerger une coutume internationale. Il y a peut-être autre chose sur laquelle j'aimerais réagir. Dans votre émission d'hier, vous avez pris un petit moment où Garrett Hardin disait « Finalement, aucune espèce ne vit selon le principe, chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. » Or, aujourd'hui, ce qu'on peut observer en réalité, et les Nations Unies travaillent sur cette question de comment élaborer une jurisprudence de la Terre et un droit de la Terre pour vivre en harmonie avec la nature. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que si les espèces vivent, chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins. Il y a deux naturalistes, Cochet et Durand, qui ont publié un ouvrage, Réensauvager la France, cet été, qui montre bien que les espèces s'autorégulent, que finalement on a des sommets de nombre d'animaux par espèce, hein, par exemple chez les loups, chez les lynx. On a des plafonds qui se mettent en place et que dans certaines communautés indigènes, il y a une sorte de don et de réception avec la nature. On prend à la nature et on lui rend ce qu'on lui a pris, et que cette harmonie-là, elle peut exister, qu'elle existe de manière naturelle dans la nature. Et c'est d'ailleurs l'un des points sur lesquels travaillent les Nations Unies, qui est de dire l'ordre terrestre est déjà prévu. Il y a quelque chose qui fonctionne de manière naturelle, de manière harmonieuse dans la nature. Et donc le droit qu'on doit imaginer avec ces nouveaux crimes, avec ces nouvelles cours, ou alors l'attribution de nouvelles compétences aux cours existantes, mais aussi le fait d'avoir une police de l'environnement, qu'on ait des personnes qui soient chargées de vérifier, de contrôler et de parler au nom d'eux ces éléments naturels. C'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut mettre en place, mais cela demande, au-delà de la structure institutionnelle, un véritable changement civilisationnel dans notre manière d'interagir avec les éléments naturels.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Stéphanie Léonas, peut-être un dernier mot sur le fait de retrouver ce qui fonctionne harmonieusement dans la nature. C'est aussi ça l'objectif des communs?
Oui, c'est très stimulant, hein, tout ce qu'on vient d'entendre là pendant ces dernières minutes. Je pense que ce qu'on doit retenir de cette heure de discussion, c'est quand même qu'on n'a plus le temps de trop réfléchir. Il faut faire des choses, il faut avancer, et il faut avancer à la fois par des actions un peu descendantes et des actions qui sont beaucoup plus depuis la base. Et je pense que c'est une responsabilité de chacun, une responsabilité des États et une responsabilité de la communauté internationale d'aujourd'hui de trouver les bonnes solutions pour avancer.
N'exclure donc aucun mode d'action, non. On vous a bien compris. Merci beaucoup à toutes les deux. Il est 14h51 et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une pollution qui contamine les océans du monde.
Oui, c'est un point perdu aux limites de l'Atlantique Nord, un tourbillon formé par de puissants courants qui capture en son sein des milliards de plastiques, du bidon polymère aux méduses synthétiques. Ces déchets sont alors capturés par les algues retenues sous la mer. Ils se démultiplient, s'entremêlent pour former ce que l'on appelle le septième continent. En réalité, de continent, il n'est point question. Bien loin de la stabilité d'une zone identifiée, ce sont peu à peu toutes les mers du globe qui sont touchées par ce phénomène de concentration des déchets. Un rapport de la Fondation MacArthur nous alerte même du risque imminent de voir la masse des plastiques sous-marins dépasser celle des poissons. Ainsi, la décharge dérivant au nord du Pacifique, entre Hawaï et la Californie, fait déjà 6 fois la surface de la France. Ses cordes et ses filets fantômes sont jetés par les hommes, bien souvent après un seul usage, et se trouvent entraînés du côté du rivage. Et ce sont aussi 300 millions de tonnes de plastique qu'il évite entre deux eaux, un chiffre qui pourrait augmenter de moitié d'ici une dizaine d'années.
Le problème, c'est qu'il est difficile de mobiliser les individus sur quelque chose qu'ils ne voient pas.
Oui, car ces tonnes de détritus dérivent en réalité bien loin du regard humain. C'est une créature mouvante, insaisissable, qui se meut et prolifère au fond des océans. Et ces débris capables de vivre des millénaires ne restent pas toujours sous leur forme initiale. Ils se transforment sous l'action du sel et des courants en une infinité de microparticules ingérées par la faune des profondeurs marines. C'est une corruption sans précédent de la chaîne alimentaire. On retrouve ensuite ce plancton synthétique dans le ventre des poissons que nous mangeons. Heureusement, la société civile et les États commencent à se mobiliser pour ralentir et maîtriser ce qui pourrait déjà constituer un phénomène irréversible de contamination de notre plus grande ressource commune. De l'ouverture des négociations à l'ONU sur la haute mer à la loi française de transition écologique interdisant couverts et assiettes jetables, les États commencent tout juste à se saisir de la question de l'infection plastique.
On compte également de nombreuses innovations venant de la communauté scientifique et des citoyens.
Oui, on pense notamment à la découverte par des chercheurs britanniques d'un enzyme capable de détruire ces minuscules présences plastiques en un temps record. On peut citer également l'initiative Plastic Odyssey portée par 6 jeunes Français et qui projette de transformer le plastique des océans en carburant pour bateaux. Ces initiatives sont encourageantes et laissent espérer une amélioration à moyen terme de l'état de nos océans, mais elles ne peuvent se substituer à une profonde transformation de nos modes de consommation. Il serait trop simple en effet de s'en remettre au progrès en espérant qu'il nous sauve d'un modèle économique toujours plus polluant. Habitués à tout acheter, emballé, empaqueté, nous produisons une masse terrifiante de déchets que l'homme est incapable de traiter entièrement. Comme l'avait prophétisé Roland Barthes dans ses mythologies, pour la première fois, l'artifice vise au commun et non au rare. La fonction ancestrale de la nature est modifiée, une matière artificielle plus féconde que tous les gisements du monde va la remplacer. Le monde tout entier peut être plastifié.
Merci beaucoup Arjuna Andrade, on peut retrouver votre chronique sur franceculture.fr et en podcast. Peut-être une réaction Stéphanie Léronas, Marie Toussaint, sur cette urgence absolue du plastique et de ce continent plastique dans l'océan. Non, pas de réaction. Eh bien, c'est pas grave, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux. Stéphanie Léronas, chargée de recherche à l'Agence française de développement. Marie Toussaint, juriste, présidente de l'association Notre Affaire à tous. On se quitte sur Forest de Peter Gabriel. Un grand merci à toutes les deux. Et demain, on parlera d'un autre commun, le numérique, avant de s'intéresser jeudi à la question du travail. Vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions, comme toujours, sur franceculture.fr, en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.